Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
7h18.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Voilà plus d'un mois que, un mois et demi, que l'Iran connaît un soulèvement inédit depuis ce 16 septembre et la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme kurde iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée 3 jours auparavant à Téhéran par la police des mœurs pour défaut du port du voile. La révolte ne faiblit pas et malgré une répression violente, la jeunesse iranienne qui a soif d'émancipation résiste. Nous parlons de la situation en Iran ce matin avec la romancière Maral Kiampour, auteure du roman Aux portes du paradis, paru en août dernier aux éditions Éric Bonnier. Elle est avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour à vous.
Assiste-t-on finalement à un profond changement dans la société iranienne ?
Alors en fait, il ne faut pas penser que ça vient de nulle part en fait. Mahsa Amini, c'est vrai, a été un petit peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'était voilà une simple jeune fille de 22 ans qui venait juste passer quelques jours de vacances dans la capitale avec sa famille avant d'aller reprendre ses études. Mais sa mort a vraiment été l'étincelle, en fait. Et sa mort n'est du coup pas du tout le point final de son histoire. D'autres ont repris le flambeau et cela va continuer. En fait, il y a un slogan assez fort en ce moment que les Iraniennes répètent beaucoup en ce moment. Et cela donne quelque chose comme « si vous abattez l'une d'entre nous, il y en aura 1000 autres qui se relèveront ». Vraiment, Mahsa Amini a été le sang versé de trop, qui est dans un contexte économique extrêmement éprouvant et épouvantable, en fait, pour la population iranienne.
Est-ce à dire, là aussi, que le feu couvait depuis longtemps ?
Oui, il y a eu pas mal de manifestations. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs s'en rappellent, en 2009 aussi, il y avait eu pas mal de manifestations en Iran suite à des élections truquées. Alors, il faut savoir quand même que c'est peut-être un peu inédit dans le sens où ça touche toutes les franges de la population. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est assez inédit. C'est-à-dire qu'il y a toutes les franges de la population qui se sentent concernées. Il y a même beaucoup de personnalités publiques iraniennes qui n'avaient jamais rien dit depuis 40 ans et qui commencent à parler pour condamner l'attitude justement des dirigeants iraniens. Il y a des cinéastes, des sportifs de haut niveau, des gens qui se taisaient en fait jusqu'à présent parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de ne plus pouvoir travailler en Iran, peur d'aller en prison, peur de ne plus pouvoir représenter l'Iran au niveau international. Je pense aujourd'hui que le dégoût pour des dirigeants corrompus et extrêmement violents qui tirent à balles réelles sur leur propre peuple, pardon, a vraiment pris l'ascendant sur cette peur.
Alors on voit les
gens. Il y a également, oui, pardon.
Pardon, allez. Non, je vous en prie, continuez, pardon.
Oui, en fait, il y a également beaucoup de manifestations, donc les gens peuvent avoir accès à certaines vidéos. Donc on voit que ça, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas inédit qu'il y ait des universitaires, des étudiants qui manifestent. Mais aujourd'hui, on voit des collégiennes, des collégiens également qui rejoignent les rangs des manifestants. Il y a des écolières, des écoliers qu'on entend scander des slogans dans les rues. Et il y a aussi beaucoup de grèves. Alors, c'est peut-être quelque chose dont on parle moins, mais il y a des grèves dans l'enseignement, dans le secteur pétrochimique, dans la métallurgie. Et il y a les marchands du bazar des différentes villes qui baissent régulièrement leurs rideaux aussi en soutien aux manifestants. Et tout récemment, j'ai même vu la vidéo d'un mollah iranien qui, lors d'un prêche à la mosquée, condamnait les massacres et les emprisonnements récents. Et ça, c'est vraiment très, très inédit. Donc en fait, le régime s'est enfermé, en fait, actuellement dans une telle spirale, si vous voulez, de violence et de rigidité, qu'il est vraiment en train de se mettre à dos quasiment tout le peuple d'Iran. Ils ont certes une partie de la population, mais qui n'est absolument pas majoritaire, qui les soutient, mais il est en train de se mettre à dos, voilà, depuis 41 jours, une grande partie, voilà, du peuple d'Iran.
On voit les jeunes, et les jeunes femmes en particulier, hein, vous le soulignez à l'instant, qui sont aux avant-postes,
oui,
de cette révolte, malgré la répression, la peur. Est-ce que finalement cette peur fait place à une grande résistance qui ne va pas s'arrêter ?
Alors c'est possible, parce que de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que la peur est en train un peu de changer de camp. On voit sur certaines vidéos, donc la police tire à balles réelles sur les manifestants, mais il peut arriver également que les manifestants soient tellement nombreux qu'ils arrivent à faire reculer la police et l'armée, qui pourtant, eux, ont les armes. Enfin, les manifestants n'ont pas d'armes, ils ont juste des bâtons, des pierres, enfin voilà, et tout ce qu'ils ont, c'est ça. Il faut savoir que depuis le début de la répression, officiellement, il y a eu 250 morts et des 12 000 arrestations. En fait, il est probable que cela soit bien plus. Il y a aussi beaucoup de pression de la police sur les familles endeuillées pour cacher la cause véritable, voilà, de la mort. Mais la peur, effectivement, est en train de changer de camp parce que la parole se libère d'une part. Il y a beaucoup de gens, justement, voilà, comme je vous disais, qui ne parlaient pas, qui avaient peur, voilà, des pressions, qui avaient peur de partir en prison, qui osent maintenant parler, des gens qui vivent en Iran, donc qui risquent gros en parlant, que ça soit des mollahs, des cinéastes, des sportifs, voilà. Et également, voilà, que des enfants scandent des slogans anti-régime dans la rue, ça ne s'était jamais vu. Hein.
Cette révolte, finalement, est-ce que c'est aussi la révolte des femmes? On les voit vraiment au premier rang.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que la situation économique en Iran est catastrophique depuis assez longtemps. Il y a eu souvent des manifestations comme ça contre la vie chère, contre les pénuries de produits. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un chômage extrêmement important actuellement, une inflation galopante qui est de l'ordre de 40%, il me semble, peut-être même 50%. Mais il faut savoir que pour les femmes, c'est encore pire parce qu'il y a ce poids, en fait, de la société qui s'applique, en fait, quand elles sortent dans la rue. Donc, il faut savoir qu'en Iran, c'est la charia très stricte qui s'applique. Donc, il y a une tenue vestimentaire à mettre extrêmement, extrêmement codifiée. Et donc pour les femmes, c'est encore plus dur parce que à chaque coin de rue, on vous arrête pour vous demander de bien remettre votre voile par la police des mœurs. Et il faut savoir que cette police des mœurs, elle est composée à moitié d'hommes, mais à moitié de femmes aussi. Donc il y a également un poids de certaines femmes sur d'autres femmes pour les obliger, voilà, à bien se remettre le voile, voilà, sur leur visage, sur leur front. Et donc, les femmes souffrent économiquement et politiquement autant que les hommes. Mais si vous voulez, en plus, on leur en rajoute une couche sur leur façon de s'habiller. Donc, ça m'a pas vraiment étonnée que ça soit les femmes, effectivement, qui explosent les premières, même si elles ont été rejointes ensuite par beaucoup d'Iraniens aussi. Mais c'est vrai que pour les femmes, oui, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a quand même ce système rigide de la charia où tout simplement une femme, en fait, vaut la moitié d'un homme. C'est pas qu'une question de voile. C'est que si vous avez, en fait, il faut deux témoignages de femmes pour que cela vaille le témoignage d'un homme. En fait, dans la charia, oui, il y a toute cette histoire que la femme vraiment vaut la moitié d'un homme.
Maral Kianpour, on voit ces jeunes hommes aussi, particulièrement jeunes d'ailleurs, souvent des lycéens, des étudiants qui sont nombreux, oui, à rejoindre les femmes qui manifestent, à les protéger en quelque sorte. Est-ce que
tout
c'est un phénomène nouveau?
Alors, c'est vrai que bon, l'image un peu du macho oriental, c'est pas vrai en Iran. Les hommes sont extrêmement... Alors, c'est vrai que bon, ceux qui dirigent le pays, au contraire, sont extrêmement violents et durs. Mais l'homme iranien n'est pas... aujourd'hui, les hommes et les femmes se mélangent beaucoup. Les jeunes de là-bas, en fait, sont pas si différents de ceux d'ici. Ils ont sans doute une conscience plus forte, plus aiguisée en ce qui concerne les inégalités, l'oppression, la censure, parce que cela fait partie de leur quotidien. Mais ils étudient beaucoup, ils se draguent, ils vont à des concerts de rap ou de rock, bien sûr, en cachette. Ils font des fêtes comme des jeunes d'ici, mais voilà, ils le font discrètement. Mais c'est vrai que les hommes et les femmes, effectivement, se mélangent beaucoup. En fait, ils n'ont pas le droit, parce qu'effectivement, par exemple, dans les transports en commun, il y a des wagons réservés aux femmes. À l'université également, les hommes et les femmes n'ont pas le droit de manger ensemble, par exemple, à la cantine. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens en ce moment qui essaient de remettre en cause cette non-mixité. Et par exemple, tout récemment, dans une université de Téhéran, ce qui se passait, c'est que les étudiants garçons allaient manger à la cafétéria de l'université en premier. Et quand ils ont terminé, en fait, c'est au tour des étudiantes filles d'aller manger à la cantine. Mais tout récemment, du fait de tous les événements, les garçons et filles de l'université ont pris la liberté, du coup, de manger tous ensemble à la cafétéria. Par réaction, le gouvernement a décidé de fermer la cantine de l'université. Et là, de nouveau, par réaction, et ben, du coup, les jeunes iraniennes et étudiants iraniens ont, du coup, décidé de pique-niquer tous ensemble dans la cour de l'université. Alors, donc voilà, ils essayent comme ça de trouver des moyens de contourner la censure, en fait.
On voit une fronde, hein, finalement, et puis aussi sur le fait de pouvoir transmettre à l'extérieur ce qui se passe. On voit d'ailleurs ces images qui contournent la censure et qui circulent sur les réseaux sociaux, entre autres de ces passants dans la rue qui font tomber le turban des mollahs qu'ils croisent. Alors, au-delà d'un acte symbolique, est-ce qu'il s'agit aussi d'un geste éminemment révélateur d'une société qui tente de s'émanciper du poids de la religion en particulier?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le poids de la religion est devenu quelque chose d'extrêmement lourd depuis la révolution islamique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, il y a une phrase qui dit que du temps du chat, en fait, on buvait à l'extérieur et on priait à l'intérieur, et du temps des mollahs, c'est l'inverse. On boit à l'intérieur et on prie à l'extérieur parce qu'il faut absolument montrer, voilà, qu'on est très pratiquant, très, et malheureusement, j'ai l'impression que ça a plutôt rendu les gens un petit peu blasés par rapport à cette religion. En fait, la foi n'a plus vraiment de sens, en fait, parce qu'il faut tellement montrer, voilà, qu'on fait les prières obligatoires, qu'on se rend régulièrement à la mosquée, qu'il faut s'habiller de façon, voilà, très stricte. C'est vraiment un poids qui est très, très lourd, en fait. Par contre, ce que les Iraniennes et Iraniens ne réclament pas, c'est qu'on interdise complètement le voile. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la liberté de choisir. Donc, de choisir, voilà, soit de mettre un simple foulard sur sa tête, soit d'avoir les cheveux au vent, soit, si l'on veut, voilà, de se couvrir la tête. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est le choix. Voilà, qu'on leur laisse le choix de s'habiller comme ils le souhaitent.
Alors, il nous reste, allez, une petite minute.
Oui.
Quelle peut être l'issue de cette révolte en Iran ? À quoi pourra ressembler, finalement, l'Iran de demain, en particulier après la disparition d'Ali Khamenei, le guide suprême, qui est âgé aujourd'hui de 83 ans, quand même ?
C'est vrai. Alors, il faut savoir quand même que le régime actuel n'est pas du tout sur le point de tomber. Ce n'est pas du tout le cas actuellement parce que l'équilibre des forces reste complètement en faveur du régime. Mais je me rappelle, en fait, ce que mes parents m'avaient raconté du temps juste avant le départ du Shah d'Iran. En fait, ça avait pris un an. Ça avait pris environ un an avant son départ. Le Shah était tellement détesté en 78 qu'il avait réussi l'exploit de rassembler contre lui des fractions très différentes de la société, pardon, comme des communistes, des nationalistes, des laïcs, des mollahs, des intellectuels, des ouvriers. Et ça avait pris environ un an de manifestation avant que le Shah ne parte. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, finalement, c'est que le système, voilà, s'est tellement enfermé dans une rigidité et dans une telle violence qu'il est en train de se mettre à dos énormément de gens différents. Et qui sait, peut-être, effectivement, dans quelques mois, dans un an, voir ce qu'il pourrait en être. Mais il faut savoir quand même que les manifestations actuelles ont quand même un caractère très inédit, du fait que ça touche effectivement énormément de franges différentes de la population et que des gens qui se taisaient ne se taisent plus.
On parlait de l'Iran ce matin sur Bretagne 5 avec vous, Maral Kianpour. Je rappelle que vous êtes romancière, vous êtes auteur de ce très beau roman « Aux portes du paradis » paru en août dernier aux éditions Éric Bonnier. J'encourage d'ailleurs vivement nos auditeurs à le lire, très beau roman. Merci beaucoup Maral Kianpour d'avoir été avec nous en direct ce matin sur l'antenne de Bretagne 5.
Merci à vous.
Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, très bonne journée à vous aussi.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.